Bonjour à tout le monde. J'ai le grand honneur de méditer avec vous la parole de Dieu. Amen. Voilà. Nous allons nous entretenir sur la prière, un entretien sur la prière. Important. Il y a des petites choses à dire et j'ai un petit plan, mais on va commencer par une lecture. Est-ce que quelqu'un peut lire Luc 18, verset 1er? Luc 18, verset 1er. Un volontaire ou une volontaire.
Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher.
Voilà, merci beaucoup. On ne va pas entrer dans la parabole, mais voilà, Jésus nous dit, il faut toujours prier et ne pas se relâcher, jusqu'au dernier souffle. Et même sur notre lit de mort. On sera peut-être pas en train de prier, en train de parler, mais on sera en train de voir le ciel. Souvent, certains, quand ils s'en vont sur leur lit de mort, ils sont en prière, ils ont une vision, ils voient le ciel s'ouvrir, la porte s'ouvre, ils voient la gloire de Dieu. Et même là, ils sont encore en communion avec Dieu. Voilà. Alors, c'est toute notre vie, ça. La prière, elle occupe une place de choix, comme la foi. Ah, sans la foi, impossible d'être agréable à Dieu. Et l'amour, qui, lui, va subsister jusque dans l'éternité, l'amour. Voilà. Et dans la Bible, la prière, l'amour, la foi, ces trois grands, ces trois géants sont là. Alors, on dit de la prière, quelle est la respiration de l'âme? C'est bien trouvé. Parce que prier, c'est être dans l'atmosphère céleste, c'est respirer l'air sans pollution. Et nous, à Paris, quand on dit sans pollution, on ne peut pas l'imaginer. Sans pollution, l'air pur, l'air céleste, c'est ça, prier. On a les poumons toujours roses, les poumons spirituels toujours roses. On reçoit l'oxygène d'en haut quand on prie. Premièrement, la prière, c'était et ça sera toujours. La prière, c'est le début, le commencement de la vie. C'est le commencement de la vie, la prière. Quand un nouveau-né commence à brailler, excusez-moi, hein, mais commence à crier, c'est bon signe. C'est signe qu'il arrive et la vie arrive, la vie, un nouveau-né, la vie, elle arrive sur la terre. Donc la prière, c'est ça parce que c'est le départ de toute vie chrétienne. C'est le départ de toute vie chrétienne. Quand on a reçu le pardon de nos péchés, repentant, déjà nos larmes avaient un sens pour Dieu, c'était une prière. Nous avons confessé, nous avons dit, alors difficilement, avec des balbutiements, mais. Moi, j'ai commencé ma vie, ma vraie vie, ma vie spirituelle, surnaturelle, par la prière, en pleurant comme un gamin, en confessant ma misère. C'était, je vous l'ai dit, larmes, balbutiements, c'était une prière fondamentale. Et ça sera toujours ça, la prière. Si quelqu'un me dit, oh, pasteur, tu exagères. Non, non, parce que vous vous rappelez, oh, ah, ben, je le fais lire à quelqu'un. Je le fais lire à quelqu'un, on a là la preuve. Acte 9, verset 11. Quelqu'un lit Acte 9, verset 11. Je vous fais un petit peu voyager, hein? J'ai le droit? Un invité, Albert, un invité, il a le droit, hein?
Oui.
Je l'ai fait voyager. Acte 9. Alors, vous avez trouvé verset 11.
Et le Seigneur lui dit, Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse.
Très bien. Dire ça à Ananias, Saul de Tarse est très connu, Ananias prend peur. Ananias prend peur. Pourquoi? Parce qu'on connaît Saul de Tarse, c'est celui qui fait jeter tout le monde en prison et qui combat l'Église, le plus grand des persécuteurs. Mais regardez la clé là. Qu'est-ce qui va rassurer Ananias? Le verset 12.
Car il prit et il
Voilà,
a vu.
on peut arrêter. Pardon, hein, ma sœur, de t'interrompre, mais voilà. La clé, elle est là. Tu ne dois pas avoir peur, car il prit. Ça y est, il est des nôtres, il est chrétien, il a reçu la vie éternelle parce qu'il prit. La prière, c'est le signe qu'on a la preuve que le Seigneur a pardonné nos péchés. Je parle la vraie prière, pas celle des hypocrites, etc. Que par là, nous sommes entrés dans le salut, entrés dans la famille de Dieu. Et donc, ce loup sanguinaire, C'est plus un loup sanguinaire, car il prie. Notez cela, car il prie. Je peux être avec un homme chelou, il se met à genoux, je me mets à genoux, il commence à prier. Ah, c'est mon frère, car il prie. Car il prie. Je ne peux pas avoir peur de... Non, ce n'est pas un ennemi, c'est mon frère, car il prie. Il prie le Seigneur. Ça, c'est un commencement. C'est le commencement que Saul de Tarse est devenu un enfant de Dieu. Oh, c'est beau, hein? C'est beau. Deuxièmement, la prière. Peut-être tu auras des questions après. Alors, je fais un peu vite. On pourrait avoir des questions. La prière, c'est aussi, puisque c'est un départ, c'est aussi tout un chemin, un cheminement. C'est tout au long de notre vie. Au cours de l'existence, la prière va nous aider à grandir. On grandit à genoux. Au cours de notre existence, on va avoir des combats. On se bat à genoux, des victoires. C'est à genoux qu'on va les chercher. Tout se passe, les victoires et tout ça, tout se passe dans le secret de notre chambre, a dit Jésus. Ferme la porte, c'est là que le Père le voit et qu'il te bénit, etc. Bon, alors on a beaucoup d'exemples. Quand Josué se battait dans la plaine avec Amalek, en bas dans la plaine, qu'il y avait en haut, sur le sommet même de la colline, il y avait un certain Moïse, Aaron et Hur qui soutenaient ses bras. Pourquoi? Moïse devait se tenir en prière pendant le combat. Et pendant tous les combats de notre vie, il faudra qu'on soit à la fois des Josué qui se battent en bas et des Moïse qui se battent en haut, parce que pour moi, le plus important, c'est la victoire. Elle est gagnée sur les hauteurs de Dieu. Elle est gagnée sur les hauteurs de Dieu. Alors là, je vais vous le citer, je ne vais pas, mais si vous avez le temps, allez-y dans Exode 17. Quand Moïse levait les bras, c'est formidable. Exode 17, verset 11. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Vous voyez, il y a la prière qui est maintenue. Lorsqu'il baissait sa main, on néglige un peu la prière. Amalek était le plus fort. Vous entendez? Amalek était le plus fort. Verset 12. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et c'est carrément les bras. Et ça devait faire du lourd avec Moïse, les bras. Et chacun soutenait un de ses bras. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Voilà, nous devons vraiment être conscients que nous avançons. Nous, les pasteurs, on ne vous dira que ça. Il y a pas, on avance à genoux, c'est-à-dire la prière, la prière, la prière. Quand on doit faire un choix, il vaut mieux prier avant. Quand on est face à des difficultés, il vaut mieux chercher la puissance de Dieu pour ce combat. Et quand on traverse la vallée de la mort, on a intérêt à être en communion, comme ça on pourra dire, Seigneur, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Et qui nous dit ça? C'est dans la prière, le Seigneur nous rassure. Quand je veux me réjouir, la prière. Quand je veux l'exalter, la prière. Quand je veux quelque chose, je vais voir mon papa céleste, etc. La prière, elle est partout, on ne peut pas y échapper. Pour tout, toujours, encore et encore, la prière. Alléluia, c'est nécessaire, la prière. Et le plus court, le plus court. Il y a plusieurs versets qui sont très courts. Des versets de deux mots. Bon, Jean 11, 35, on connaît Jésus pleura. Un sujet, un verbe, ça fait une phrase. Jésus pleura, le verset 35. 1 Thessaloniciens 5, 16, soyez toujours joyeux. Dans le grec, c'est toujours joyeux, c'est-à-dire soyez. Toujours joyeux. Et ici, 1 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse. Sans cesse, c'est un seul mot. C'est un adverbe qui modifie le verbe. Prier, prier tout le temps, prier sans arrêter. Prier comme on respire. Comme on respire. Je vous l'ai dit, c'était la respiration de l'âme. Et donc, on oublie, mais ça doit être prière un réflexe constant. Aujourd'hui, on a beaucoup d'aide, beaucoup de secours. On a même le docteur, on peut appeler les urgences. Et vous avez prié? Ah, non. Voilà. Bon. La prière, c'est tout au long, j'ai dit un cheminement, ou tout le chemin, c'est tout le parcours, toute ma vie, sur le chemin. C'est aussi la prière d'amour. Bien sûr. Pourquoi? Parce que si la prière, c'est le but à atteindre, comme dans certaines religions, il faut faire des prières, on mesure les prières, on compte les prières. plusieurs au milieu de nous là pourraient dire, ah ben oui, moi dans ma religion, j'avais un chapelet, je comptais, j'égrenais. Bon, c'est pas ça la prière, parce que ça devient une idolâtrie. On idolâtre la prière en elle-même. La prière, c'est juste un moyen. Comme les chaussures que j'ai qui vont m'aider à marcher, je vais quitter la maison, je vais aller jusqu'à l'église, je vais marcher beaucoup, des kilomètres. Bon, mais je les oublie, mes chaussures. Je les oublie, mais elles vont être d'un précieux secours. Et donc, ce n'est pas le but. La prière n'est jamais un but. Mais la prière, c'est un moyen, certes, unique et puissant pour parler à Dieu. Ah, voilà, pour parler à Dieu, et c'est tout. Mais c'est très important, bien sûr. Mais c'est un moyen. C'est qu'un moyen. Si je prends un avion pour venir à Aubagne, je m'en fiche, moi, de la marque de la compagnie, tout ça. Le but, c'est que j'arrive à Aubagne vous voir. Si c'est en voiture, je m'en fiche, moi, de la voiture, des marques. C'est que j'arrive. C'est un véhicule qui me porte. Et elle me porte. Alors, donc, cet instrument, ou ce moyen, ou ce véhicule, ça permet la plus belle et la plus forte des relations. Parler à Dieu. Waouh! Wow. Et donc, la prière, elle est un instrument. Parler à quelqu'un, c'est établir un pont. Un pont, parce qu'un pont, il y a du passage. Dans les deux, côté terre, je suis en bas, je prie, je bâtis le pont. Côté ciel, il me répond. Parce que la prière, c'est je monte et il descend, il me parle. Et c'est bâtir un pont qui parle. Quand je prie, qui part de moi, de la terre, et qui atteint le cœur même de Dieu, qui atteint le ciel. C'est merveilleux, un pont. On est fait pour bâtir les ponts. Quand il y a une guerre, les premières cibles sont les moyens de communication, c'est-à-dire les ponts. On démolit déjà les ponts de l'ennemi. Et c'est ce que fait le diable dans les couples, les ponts, les relations, les enfants, parents, partout, au boulot, partout. Or, quelqu'un qui prie établit une relation, un pont avec le Seigneur. Et lui, il n'attend que ça, il ne demande que ça. Parce que Dieu est un Dieu de relations et Dieu ne se cache pas, au contraire, il se révèle. Alors, c'est un miracle parce que moi, toi, mon frère, dans notre faiblesse, dans notre misère, nous atteignons celui qui est le plus grand, nous atteignons celui qui est assis sur un trône, alors que nous sommes des misérables. Quand je prie, j'ai les pieds sur terre, mais j'ai mon cœur, j'ai ma tête dans le ciel. J'ai les pieds sur terre. On les voit dans les Actes des Apôtres, ils sont en prison, ils sont dans des endroits terribles, sordides, mais ils sont en train de louer Dieu. Et ils disent des choses merveilleuses, ils célèbrent le Seigneur, parce que la prière établit un pont entre la terre, avec sa misère, ses misères, les problèmes, les tourments, et le Seigneur de gloire, il est sur un trône, il y a du bruit, il y a de la louange. Les anges louent le Seigneur, verset 2. Les anges louent le Seigneur. Dans ce même psaume, la création tout entière le célèbre également. Versets 3 à 10. Toute la création le célèbre. Et puis, si on continue, après on voit, versets 11 et 12, dans le psaume 48, que les hommes, des grands, des petits, des jeunes, des moins jeunes, etc., tous sont appelés à louer le Seigneur. Alors, vous voyez, quel outil merveilleux qu'on peut tous utiliser. Quelqu'un me dira, je ne peux pas ceci, je ne peux pas, j'accepte. Mais personne ne pourra me dire « je ne peux pas prier ». Comment tu ne peux pas prier? Je viens de t'entendre, ça fait une demi-heure que tu causes au téléphone, tu sais parler, hein, et tu ne sais pas dire quelque chose à Dieu. Voilà. Alors, donc, c'est quelque chose de merveilleux. Ce psaume 48, allez le voir, et vous allez voir que Dieu veut qu'on le célèbre, et tout le monde le célèbre, la création, les anges, et on va dire les humains, les terrestres. La prière, puisque c'est une relation d'amour, c'est vraiment un cœur à cœur avec Dieu. Et comme c'est un cœur à cœur, c'est important de le dire. La créature que je suis est le créateur. C'est important parce qu'un cœur à cœur, ça se fait de plusieurs façons. Comment ça? Un jour, un papa, un pasteur, était sur son fauteuil en train de méditer et sa petite fille vient par derrière et puis elle commence à jouer avec ses cheveux et elle continue. Et le papa ne dit rien au début, puis après il lui dit « mais ma petite, écoute, tu me gênes un peu, qu'est-ce que tu fais là ?» Elle dit oh non papa, je joue pas avec tes cheveux papa, je t'aime avec mes mains. C'est beau, hein, je t'aime avec mes mains. Eh bien la prière c'est ça, c'est que je vais lui dire des fois dans le silence, on oublie qu'on doit prier en silence aussi, c'est important. On a plusieurs manières de prier parce que manifester notre amour, ça, on peut venir avec des larmes, on peut venir avec une grande joie, on peut venir en faisant des bons, en criant, voilà, c'est tellement varié. Et donc, ce cœur à cœur, c'est entre l'enfant et son père. L'enfant et son père. Et quand on est reconnaissant, on lui dit « Seigneur, merci », on lui dit « Pourquoi ?» Et puis « Je suis fier de toi, Seigneur ». Et voilà, et c'est comme ça qu'on parle. Et c'est formidable de faire ça. Quand vous allez dans les psaumes, vous le voyez ça. David n'a pas une seule manière de prier. Il est très varié dans sa manière de prier. On exprime l'amour de différentes façons. Quand on aime, on veut faire un cadeau. Quand on aime, on veut donner. Bien, à Dieu, des fois, on peut faire un cadeau. C'est-à-dire, Seigneur, ben tiens, je veux faire ça pour toi. Tu ne me le demandes pas, mais moi, je veux le faire. Il y avait dans l'Ancien Testament toutes sortes d'offrandes. Le peuple de Dieu était enseigné par Dieu à faire des offrandes. Pas seulement la dîme, c'est un minimum, ça. Mais offrandes, offrandes, offrandes. On a reçu une offrande, on est heureux, une offrande. Il n'y a rien, mais j'ai envie. Et voilà. Et on appelait ça les offrandes volontaires. Et quand on prie, on ne fait pas parce qu'il y a une nécessité, parce qu'il y a un besoin. Non, quand tout va bien, j'ai envie de prier Dieu rien que pour lui dire, écoute Seigneur, je veux te contempler, je veux te regarder, je veux te voir dans ta beauté, etc. Et c'est très beau. Et Dieu est honoré. Parce qu'on ne vient pas toujours pour demander, j'espère. On vient pour remercier, mais on ne vient pas toujours pour remercier parce qu'on pense encore à nous. Tu m'as béni, tu m'as donné, tu m'as rendu heureux. Non, on vient pour juste l'adorer. Et puis on vient parce qu'on a envie d'offrir ce temps au Seigneur comme une offrande volontaire, etc. Un jour, on était au Coteau Fleuri, et un soir, la réunion s'était terminée, on devait passer une nuit de prière ensemble, et j'avais des petits trucs, et j'ai dit « commencez, j'arrive après ». Et quand je suis arrivé, ils avaient commencé, il y avait 2-3 marches à monter, je les monte, j'ouvre la porte, ils avaient commencé, c'était beau. Puis je me suis assis sur le perron, là, la porte ouverte, et j'ai écouté. Je ne suis pas rentré tout de suite. Comme ils priaient, ils n'ont pas vu que je ne suis pas rentré tout de suite. Ils priaient. Et puis, je me suis mis à la place du Seigneur. J'étais là. Et je dis, waouh, Seigneur, tu en as de la chance. Waouh, que c'est beau tout ce qu'ils disent. Tout ça, c'est pour toi, Seigneur. Et je suis resté là, à la place du Seigneur. Il ne m'en a pas voulu. Hein. J'étais à la place du Seigneur pour faire une expérience. Et j'ai compris que la prière, ben, l'honore, le réjouit, il est fier. Et quel est le père qui n'est pas fier que son gamin vienne lui demander, le remercier ou lui dire « Papa, je t'aime » ou « Papa, t'es le plus fort » ou tout simplement « Voilà, je veux t'aimer avec mes mains » ou « Je veux te... Non, non, je veux rien, non, je veux juste te regarder, je veux juste te contempler. » Ça honore le Seigneur. En tout cas, moi, je l'ai vécu. Je peux vous dire que Dieu est honoré quand il entend son peuple se rassembler. Et je lui ai même dit « Oh, t'en as de la chance, Seigneur, tout ça, c'est pour toi. » Avec mon langage à moi, bien sûr. Et voilà, alors c'est très beau, c'est très beau. Et on peut terminer avec 2 passages que je vais vous faire lire. C'est comment David exprime l'amour qu'il porte à son Dieu. Vous voyez ? Alors bien sûr, David était un poète, il savait bien écrire les choses, bien les dire avec des images, avec les mots qu'il faut. Waouh, c'est très fort, mais quand même, on va y aller et ça va nous inspirer pour la prière. On va lire donc 2 endroits dans les psaumes, préparer déjà les psaumes. Juste avant, on s'est aperçu, il y a des gens qui sont toujours en train de faire des stats et tout ça, on s'est aperçu que le meilleur des remèdes à la maladie, enfin pour être toujours en bonne santé, c'est des païens qui ont fait ça. Ils ont dit que, on a fait une enquête, mais après on a demandé aux gens, vous priez pas, vous priez beaucoup, pas beaucoup, et on s'est aperçu que quand les gens prient, plus les gens prient, moins ils tombent malades. Plus les gens prient, bon, je pense qu'ils l'ont fait aux États-Unis, donc je pense que c'est quand même la vraie prière, pas les répétitions, les vaines redites. Hein. Plus les gens prient, moins ils ont tendance à être dépressifs. Et dites-moi, bien-aimé, c'est normal. Si je suis en contact avec le Seigneur, vous croyez que je peux être dépressif? Parce que la dépression... Sauf s'il y a un dérèglement hormonal. Bon, je ne parle pas de ça, mais quand même, mon âme ne peut pas être triste si elle vient de passer du temps dans la présence de celui qui la rend heureuse. Et donc, ils ont trouvé ça, je lisais ça dans un magazine, dans un avion d'ailleurs, voilà. Et ils disaient, en quelque sorte, déjà si on prie, on a beaucoup moins de problèmes et beaucoup moins de difficultés. N'attendons pas d'avoir des difficultés pour prier, mais soyons dans la présence de Dieu, et comme ça, on est gardé, on est toujours heureux, on est toujours joyeux, parce que le secret de la joie, de notre bonheur, c'est la présence de Dieu. Et la présence de Dieu, on la cherche dans la prière. Je me suis bien fait comprendre ? Ça va, c'est pas trop compliqué ce que j'ai dit, mais c'est des statistiques qui sont plus ou moins vraies, mais quand même, plus je suis dans sa présence, et moins j'ai de place pour la dépression. Et elle n'en aura jamais même, si je suis rempli du Seigneur. Alors, on va lire dans les psaumes, quelqu'un peut lire pour nous, dans le psaume 63, dans le psaume 63, verset, ah, c'est bien dit, hein, comment il le dit, hein, verset 2, 3 et 4. Un volontaire.
Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée et sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges.
Amen. Et on pourrait continuer. Oui, bon, ouais. parce que le temps court plus vite que nous, hein. Bon, et puis il y a encore le psaume suivant, un autre psaume. Il est antérieur, mais un autre psaume. Alors, vous voyez que là, dans ce qu'il dit là, il y aurait de quoi méditer pendant une heure ou deux. Là, vous voyez, sa prière, c'est vivant, c'est pas du gnangnan, c'est pas du récité, c'est pas appris par cœur ni rien. Selon l'état où il est, selon l'endroit où il se trouve. Or, l'introduction nous dit, psaume de David lorsqu'il était dans le désert de Juda. On prie partout, ce n'est pas mon propos là ce soir, mais on prie partout, on prie dans la sécheresse, dans l'abondance, on prie entouré de la foule, à l'église, dans notre chambre, on ferme la porte, comme dit Jésus, on prie quand ça va mal, quand ça va bien, on prie parce qu'on cherche sa présence. Jésus lui-même prenait du temps, il s'écartait pour aller sur terre, quand il était sur terre, son ministère, il s'écartait pour retrouver l'atmosphère du ciel, il avait quitté le Père. Il avait quitté la gloire. Pourquoi il priait? Il n'avait pas besoin de prier. Il est Dieu. Il voulait retrouver ce contact en tant que fils de l'homme. Il nous l'a montré et il passait du temps parce que quand tu es dans la présence de Dieu, l'horloge, tu n'en as plus besoin. Tu la mets dans un coin et puis voilà. Et je dis bien, on ne regarde plus le temps. Un pasteur avait mis la nuit de prière une fois par semaine. Il l'avait mise dans la nuit du samedi au dimanche. Normalement, si on est sage, on la met du vendredi au samedi, et samedi, comme ça, on peut un peu récupérer, 2-3 heures ou quoi. Toute la nuit de prière, c'était du samedi soir au dimanche. Ils arrêtaient une heure avant le culte, mais c'est sûr que tous ceux qui avaient fait la nuit de prière n'étaient jamais en retard au culte. Ils étaient déjà là. Et alors, on leur a dit, mais pasteur, vous ne voulez pas mettre le vendredi? Ils disent, non, ceux qui viennent, ceux qui sont là, et ils trouvent que c'est formidable le samedi, on maintient... Ah ouais, moi je viendrai si... Non, non, venez. Et un chrétien m'a dit, ce qui se passait, c'est qu'au culte, tous ceux qui avaient passé la nuit de prière dans l'église, sans dormir, mais dans une telle présence de Dieu, avaient eu un tel renouvellement de force et de gloire et de... Waouh, du Saint-Esprit, qu'il n'y en a pas... Au contraire, ils avaient envie de prier 4-5 fois chacun. Ils devaient freiner les chrétiens à la louange, à l'adoration. Le pasteur. Par contre, on a vu que tous ceux qui avaient dormi chez eux plusieurs heures, 7 ou 8 heures, ils s'endormaient pendant le culte. Bon, il ne faut pas juger, ni après chacun a ses raisons de venir, pas venir. Mais c'est pour dire que dans la présence de Dieu, waouh, on ne sent plus la chaleur du désert. C'est ce qui est arrivé à David. Dernier psaume, psaume 18, celui-ci, psaume 18. Alors, deux versets qui ne se suivent pas. Celui ou celle qui va lire va faire attention, il va sauter. Psaume 18, d'abord le verset 2. Psaume 18, verset 2. Et après, le verset 7. Regardez comment il parle au Seigneur. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Psaume 18, verset 2. Psaume 18, verset 7.
Éternel, mon rocher, ma forteresse.
Ah oui, alors c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes numérotations. C'est vrai. Parce que souvent, on compte pas le début ou on compte le début selon les versions. Mais moi, je voulais ce verset qui commence juste avant par « Je t'aime ». Oui, voilà ma sœur, vas-y. je t'aime.
Je n'ai pas.
Juste avant éternel, mon rocher.
Je t'aime, ô éternel, ma force.
Voilà.
Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis.
Encore.
Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui, à ses oreilles.
Amen. On peut arrêter là. Alors, je n'avais pas prévu de faire lire tout le texte, là.
Oh, pardon.
Non, ce n'est pas un pardon. Non, parce que moi, j'avais pitié de vous, puisque je me bats avec le chrono. Mais il y a d'autres choses encore à voir et à dire. Mais bon, voilà. Hein. C'est merveilleux. Là, c'est différent de l'autre. C'est « Je t'aime, ô éternel, ma force ». Voilà. « Je t'aime ». C'est beau, ça. Un jour, une dame, le pasteur s'approche. C'était une dame nouvelle. Elle n'avait pas beaucoup d'instructions, la pauvre. Il s'approche, il écoute. Et ça, il y a quelque chose qu'il ne comprend pas. Et il lui demande après. Il dit « Quand vous avez prié, je vous entendais réciter l'alphabet, ma sœur ». Elle dit « Oui, parce qu'il y a des fois, je ne sais plus quoi lui dire. Alors, je lui donne les lettres de l'alphabet. Et lui, avec ça, il fait les mots de ma prière. » C'est pas beau, ça? Il fait les mots. C'est-à-dire qu'il comprend ou pas, le Seigneur? Bien sûr qu'il comprend. Alors bon, n'allez pas maintenant dimanche au culte. Ah ben c'est... Non. Après, votre pasteur, il va me dire Polo. Mais même si vous dites ABCD, le Seigneur, il ne va pas se moquer de vous, il ne va pas rire. Il va dire waouh. Et lui-même, il va vous faire la prière et elle va être réussie, celle-là. Bon, ça veut dire quoi? Qu'on peut prier avec nos larmes, on peut prier avec nos soupirs, on peut prier avec même des angoisses. Il comprend le langage de nos larmes, il interprète, il sait tout ça. Et là, c'est beau, il le dit simplement, « Je t'aime, ô Éternel, ma force. » Vous voyez ? Et après, c'est également, dans sa prière, le verset 7, il dit que sa prière est allée jusqu'au palais. Hein. « Dans ma détresse, j'ai invoqué, j'ai crié. » Mais il dit, verset 7, « De son palais, il a entendu ma voix. » Et mon cri est parvenu devant lui, à ses oreilles. C'est-à-dire que quand on prie, bien-aimé, on oublie que même si on est sur terre, avec nos angoisses, dans notre prison, sur un lit de maladie, qu'importe, dans une souffrance pas possible, quand on prie, notre prière, mon cri est parvenu devant lui et même à ses oreilles. On est à la fois sur terre, c'est beau, hein, les entretiens sur la prière, c'est bien sûr qu'après, on va dire le mieux, c'est de prier, bien sûr. Alors, moi, je vous invite à ce qu'on prie encore. Je ne sais pas si on a beaucoup de temps, mais il faut prier maintenant parce que sinon, ce que j'ai dit, c'est que de la théorie. Voilà.
On peut
Alléluia.
Prier.
Amen. Seigneur, tu mets tous ces versets qu'on a vus, toutes ces pensées, tu les mets bien au fond de notre cœur pour que tout au long de notre pèlerinage, nous soyons des hommes et des femmes de relations, de contacts. Et il n'y a pas mieux que la prière sous toutes ses formes pour nous aider à être des hommes et des femmes de ce contact-là. C'est toi que nous voulons atteindre, personne d'autre par la prière. Merci Seigneur, tu es plus grand que la prière, elle n'est qu'un moyen. Notre but, ce n'est pas d'obtenir, d'avoir, c'est de te toucher, d'être avec toi, si nous devons recevoir, de recevoir. Mais de toi, c'est toi notre but. Merci Seigneur, amen.
Tu avais parlé de questions, s'il y a une ou deux questions, quelques-unes, non?
Oui, s'il y a des questions, ouais.
Ouais,
des expériences à partager, même des expériences à partager.
Voilà, si quelqu'un veut, sur la prière, sur la communion. Si...
Oui, voilà, dans ce sujet-là, ouais.
Voilà, s'il y a quelqu'un.
Ouais. Tout le monde, hein, je pense que tout le monde a quelque chose à dire, là.
Ouais.
Pas tous en même temps. Non. Bon, par exemple, quand je dis on peut idolâtrer la prière, Moi, ça m'est arrivé, hélas. Je m'étais mis dans ma chambre pour jeûner, prier, tout ça. Et puis, comment on peut idolâtrer ? C'est mon but, je ne m'en rendais pas compte à ce moment-là, mais mon but, c'était la prière. Ce n'était pas le Seigneur. J'étais complètement à côté de la plaque. Et même, je vais vous montrer comment, mais à la manière dont j'ai réagi, je n'ai pas encore compris. C'est plus tard. Et puis, ma mère, avec beaucoup de douceur, elle m'a fait comprendre que j'étais un peu beaucoup déréglé. Et voilà, donc j'étais avec le Seigneur, tout ça. Et ma mère rentre dans ma chambre. Et puis, elle me parle, je ne sais plus si elle pose une question ou elle me parle, et je me retourne en disant, « Arrête, sors, tu ne vois pas que je suis en train de prier. » Voilà. Ça, j'étais pas vraiment… Mon but, c'était la prière, ce n'était pas vraiment le Seigneur. Et c'était au début de ma vie chrétienne, on est un peu fanatique. Enfin, moi, j'étais un peu beaucoup fanatique au début de la vie chrétienne, et on peut facilement… dévier du vrai but de la prière. Le but de la prière, c'est d'atteindre le Seigneur, c'est tout. La prière, c'est rien d'autre qu'un instrument, qu'un véhicule, qu'un moyen. Les moyens, dimanche je disais que le Seigneur, il a comme moyen pour Élie, d'abord il lui a trouvé un torrent où il y avait de l'eau, en pleine famine, il faut le faire. Après, il a trouvé les corbeaux, c'est un moyen, les corbeaux. Plus tard, le Seigneur lui dit, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir, donc une veuve, et plus tard, des anges, quelques chapitres après, des anges vont le nourrir. Et nous, on va dire, quel est le plus beau miracle ? Avec un ange, te fasse à manger, surtout que l'ange lui a fait à manger, et avec la nourriture à la fois, on va dire physique, matériel et sûrement spirituel, il a pu marcher 40 jours et 40 nuits jusqu'en Horeb. Non, le plus beau miracle, ce n'est pas parce qu'un ange lui est apparu. Le plus beau miracle, ce n'est pas la veuve, ce n'est pas les corbeaux. Chacun des trois, chacun est un miracle extraordinaire. Donc, nous, on pense tout de suite, ah, ça c'est grand, ah, ça c'est glorieux. Non, non. Venir tout simplement dans la présence de Dieu et dire, Seigneur, tu me plais, tu es formidable, merci. C'est une prière fantastique. Après, la prière qui ouvre le ciel ou qui ferme le ciel ou qui ressuscite un mort, c'est aussi un moyen. Mais c'est Dieu qui est grand là-dedans. Donc nous, on peut idolâtrer la prière. Vous voyez ? Et avoir pour cible la prière. Il faut que je prie. Non, il faut qu'avec la prière, il faut que par le moyen de la prière, je puisse aller voir mon Seigneur et lui dire ma joie, ou lui dire ma peine, ou lui dire mon besoin, ou lui dire je veux plus rien, j'ai tout, je te remercie, ou lui dire montre-moi le chemin, ou lui dire pardon, etc., etc. Vous voyez comment on peut... Le but n'est pas la prière, ça ne sera jamais le but.
Polo, moi j'ai remarqué une chose, c'est qu'il y a un piège dans la prière, c'est la routine et la récitation. Ça, c'est un piège. Alors, dans ma prière, je fais attention à ne pas tomber dans la routine ni dans la récitation.
Très bien, moi aussi. J'essaye de jamais terminer pareil.
Voilà.
J'essaye de jamais commencer pareil. Pour terminer, des fois, je termine par Alléluia, des fois par Amen, des fois par... voilà, parce qu'il y a des formules aussi. Et l'introduction aussi. Et puis dans la prière, j'essaye de ne pas dire les mots que je dis habituellement.
C'est vrai.
Seigneur notre Dieu. Pourquoi on ne dirait pas notre Dieu Seigneur ? Ouh, ça dérègle déjà.
Oui, c'est...
Ah ben, si déjà on réfléchit, il faut, parce que quand on prie en français, on prie avec l'intelligence, dit l'apôtre Paul. C'est quand on prie en langue qu'on prie par l'esprit. Alors si je prie avec mon intelligence... Bien, mon intelligence, je la fais travailler. J'essaye toujours d'être court. Prière en public, allez, une minute vingt. C'est déjà beaucoup, une minute vingt. Ça fait combien de phrases ? Vous voyez ? Non, ça, c'est important en public. Parce qu'il y a un moment, par exemple, une bénédiction, là, il y a l'onction et la présence de Dieu, puis quelqu'un vient prier, c'est très beau, mais au bout d'un quart d'heure, il est toujours en train de prier, et puis il a tué la vie. C'est la routine qui tue la vie. Il a tué la vie, et après, pour redémarrer derrière, etc., etc., voilà, alors tout ça c'est parce que Paul dit quand je prie Aujourd'hui, on dirait en français, je prie avec mon intelligence, ma tête, mais bien sûr, je demande même au Seigneur à quel moment je vais prier, Seigneur. Et puis souvent, parce que nous, prédicateurs, on nous entend beaucoup, souvent le Seigneur me dit tais-toi et écoute les autres prier. Hein? C'est pas vrai, Albert? Tais-toi un peu, tu prends trop de place, oh, calme-toi. Voilà. Et on écoute. Et puis, la prière, des fois, à l'église, on peut avoir un temps de prière très fort, ça crie de partout, c'est de Dieu. Mais des fois, on a un temps où c'est Dieu qui nous parle à chacun dans le cœur et il y a un silence impressionnant. Alors, quelle est la meilleure des prières? Aucune des deux, je vous l'ai dit, c'est qu'un moyen. C'est que dans le silence, si c'est de Dieu ce silence, c'est du costaud, c'est du lourd, c'est d'un grand prix. Et si c'est le bruit de Dieu aussi, c'est d'un grand prix. Vous voyez comment la réunion de prière réussit, c'est pas celle où on a crié ou celle où... Non, c'est celle où Dieu était présent. Après, on a pleuré, on a crié, on a ri, ou pas, voilà. On était silencieux. Tu as raison. Mais je connais les politos depuis longtemps, moi. Hein.
Ah oui.
Tu m'as connu, je n'avais pas de barbe ici, ni là.
Je t'ai connu, tu étais encore un jeune homme.
Un gamin.
Ah oui.
Je suis toujours gamin. Parce que tu sais pourquoi je suis gamin? Si je m'assois à côté de Mathusalem, je vais voir que je suis vraiment gamin. Hein. Ah ben oui. Ouais.
J'ai une question. Pourquoi on doit passer par la prière et pourquoi pas communiquer directement à Dieu?
Belle question. Passer par la prière, c'est communiquer avec Dieu. Parce que communiquer, tu vois, c'est faire une union. Un pont, c'est une union. Parler, je parle, ça sort de là, ça va dans ton oreille. Ça nous lie, c'est une communication. Parler, c'est communiquer. Et donc, quand tu pries, tu communiques. Et quand tu pries, tu vas directement au Seigneur. Tu vois? Tu passes par personne d'autre. Moi, quand je prie, alors là aussi, on peut prier Dieu, le Père, c'est dans la Bible, et on peut prier Jésus, c'est aussi dans la Bible. Mais comme les deux, il y a le Père, le Fils, même le Saint-Esprit, on pourrait prier le Saint-Esprit, mais il n'y a pas de prière au Saint-Esprit direct. Mais si quelqu'un le fait, bon, il s'est adressé aussi à Dieu, Dieu, le Saint-Esprit. Il y a Dieu, le Père, et il y a Dieu, Jésus. Donc, quand tu pries, tu communiques, c'est ça, communiquer. Quand tu communiques avec tes parents, tu leur parles. S'il n'y a pas la parole, tu vois, la parole parlée, tu m'entends là, c'est la parole parlée. Eh bien, qu'est-ce qu'on a? Je t'envoie un texto, c'est la parole écrite. D'accord? Tu vois? Et c'est pareil, je communique avec toi. Moi, j'ai quitté WhatsApp, je suis maintenant sur Telegram. Je communique, si tu es sur Telegram, je communique avec toi. Je te dis, salut champion, comment tu vas? Et toi, tu communiques avec moi, tu me réponds. Donc, la prière se sert de la parole, mais ça peut être aussi la parole parlée, comme tu m'entends, mais la parole écrite, si je t'écris. Avant, on écrivait des lettres, on collait le timbre, on allait la poster, la lettre. C'était compliqué, c'était long. Mais aujourd'hui, on a le téléphone, je peux te parler au téléphone. Là, tu m'entends grâce à mon ordinateur et grâce à Zoom, c'est-à-dire on communique. Donc, prier, c'est communiquer. D'accord? Et prier, c'est parler. Nous, chrétiens, on le sait, on parle directement à Dieu. Directement. Jésus nous a ouvert la porte. On ne passe pas par Saint-Pierre, Saint-Paul, la Vierge, l'autre, machin, une statue, une idole, des bougies. Non. Tu parles comme tu parles à papa, comme tu parles à maman, tu parles directement au Seigneur. Et il t'entend et lui te répond. Ah, alors comment il nous répond? On n'entend pas la voix aiguë, grave. Quelle est la voix de Dieu? Comment elle est? Non, mais tu l'entends là-dedans. Tu l'entends là-dedans. Il te donne des pensées. Et c'est lui. Tu vois? Mais tes parents ont dû t'expliquer ça, mais ta question, elle est drôlement pertinente, c'est-à-dire drôlement intelligente. Hein, voilà. Mais parler, c'est communiquer. Hein, cum, communiquer. Cum, ça veut dire avec. Avec. Et tu fais donc un contact. Tu fais un contact. Il y a le mot communion, relation, intimité, communiquer, parler. Voilà. Et pourquoi nous on prie et pas les animaux? Parce que les animaux, ils ne parlent pas. Tu n'as jamais entendu un chien dire à une chienne, je t'aime, je veux être ton petit mari. Tu vois? Jamais. Mais un jour, champion, un jour, ton papa, il est allé voir ta maman et il lui a dit, ben, tu sais, et elle a dit quoi? Et elle savait, elle se doutait un peu, j'aimerais te dire que, tu vois? Et qu'est-ce qu'il... C'est pas comme ça?
Tu es allé comme Zorro?
Ouais.
Tu vois? Et un jour, papa, il a communiqué à maman, c'est-à-dire il lui a parlé, ou il lui a écrit, si elle est loin, mais elle peut être loin, et il lui a écrit, il lui a communiqué son amour. Et maman, elle a répondu. Répondu, c'est communiquer, c'est parler directement, tu vois, directement. Et voilà. C'est beau, hein? C'est comme ça. Ben avec Dieu, c'est comme ça aussi. Direct. Tu lui parles direct. Et tu peux le tutoyer, le Seigneur. Hein? Tu peux le tutoyer. Voilà. C'est à la fois, c'est Dieu, attention, on a la crainte, le respect, mais en même temps, c'est un ami. Il nous aime beaucoup. Et tu peux, c'est ton ami. Alléluia. D'accord? Toi, tu as deux papas. Tu as ton père et tu as ton père du ciel. Tu en as deux. Moi aussi. Mais mon papa de la terre, mon papa terrestre, il est parti. Voilà. Il était âgé, il est parti. Mais toi, tu as deux papas. Voilà. Et tu dois les aimer les deux. Hein? Attention. Hein? Et obéir aux deux. Hein? Attention. Hein? Ça va, j'ai répondu à ta question? Hein?
Mais si j'ai deux papas, pourquoi je n'ai pas deux mamans?
Ah, ben voilà. Eh ben regarde. Mais tu as raison. Alors regarde déjà, tu vas mieux comprendre. Dans l'église, on s'appelle. Tu sais comment on s'appelle quand on va à l'église? On s'appelle frère et sœur, hein? Tiens, le frère untel, tiens la sœur. On se dit bonjour frère, bonjour sœur. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Mm-hmm. Mais pourquoi on est frère et sœur? Parce qu'on est de la même famille. Mais attends, on n'est pas pareil quand même, hein? On n'est pas pareil. Eh bien, ça veut dire qu'on a tous le même Père, c'est-à-dire Dieu, qui nous a fait rentrer dans la famille qui s'appelle l'Église. Mais on a une mère différente. Moi, je dis à ton papa, ça va mon frère? C'est mon frère. Et il me répond, oui mon frère. Parce qu'on a le même papa céleste, mais après lui, il a sa maman, moi j'ai ma maman. On n'est pas de la même famille, on va dire physique, de la terre. Mais on a le même papa. C'est-à-dire qu'on a deux naissances. La naissance, quand tu sors du ventre de maman, hein, tu es né de ton papa et de ta maman. Mais on a une deuxième naissance dont parle Jésus, c'est quand le Seigneur il est venu en nous, il est venu naître en nous, et là, on a reçu une deuxième naissance, ça s'appelle la naissance de l'Esprit, la deuxième naissance. Donc le vrai chrétien, il est né deux fois, de son papa et de sa maman. Il est venu d'abord dans le ventre de maman et ensuite, il est sorti un petit garçon, une petite fille. Ça, c'est la naissance physique. Il est sur terre. Mais la deuxième naissance, ce n'est pas tout le monde qui l'a. C'est que les chrétiens. Tu vois, quand Jésus, il est venu en nous, on l'a accepté, on a ouvert la porte et il est venu. Et il nous a donné une deuxième naissance. Bon, papa, maman et le pasteur, et tu verras, ils vont t'expliquer dans les détails.
Merci.
Donc, mon papa, c'est mon frère. Et moi, je suis son frère. Mais on n'a pas la même maman parce qu'on est frère spirituel avec le même père. On a un même père là-haut, mais on n'a pas la même maman. Tu as compris? On t'expliquera. Les parents, vous avez du boulot maintenant. Hein, vous avez du boulot. Hein.
On n'est pas couché. On va passer.
Bon. Monsieur le pasteur, je n'ai pas dit trop de bêtises, monsieur le théologien. Moi, je suis un petit évangéliste. Hein. On verra. Hein. On verra.
Bon. Ben, s'il y avait une dernière question, sinon, on va se séparer.
Ce qu'il y a de bien, Albert, ce qu'il y a de bien, c'est que si je ne peux pas répondre, c'est toi qui réponds. Hein. C'est ça qui est bien avec les questions.
S'il n'y a pas de questions.
Tu t'en sors bien, là. Il n'y a pas de questions.
Bon. En tous les cas, merci, Polo. Merci beaucoup.